Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heure passée de quelques secondes sur Radio. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord d'un nouveau numéro de Wagon Livre en ce 1er janvier 2022. Nouvelle année, nouvelle chance. Place effectivement à l'année nouvelle. Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux de santé et de bonheur à vous ainsi qu'à tous les membres de votre famille, à toutes celles et tous ceux qui sont dans votre cœur et dans votre âme. Wagon Livre entame cette année, sa 12e année d'existence sur l'antenne de Radion, et cette émission demeure toujours la seule heure littéraire hebdomadaire sur les ondes en Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, nous ne tournerons pas encore complètement le dos à l'année écoulée puisque nous allons vous proposer un florilège d'extraits d'émissions diffusées courant 2021. Choix délicat pour vous offrir une sélection parmi les nombreux auteurs invités à s'exprimer devant notre micro, et vous vous en souvenez sans doute, 2021 a été l'année du bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon. Et nous avions d'ailleurs rencontré l'écrivain et journaliste Jean-François Coulon-Desart lors de la 14e édition de Livre en Vigne qui se tenait au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon, c'était le 26 septembre dernier. Et Jean-François Coulon-Desart a réalisé 5 documentaires de référence tournés sur les lieux de l'épopée napoléonienne. Il est aussi l'auteur d'une dizaine d'autres films documentaires sur le Premier Empire. Et il a fait paraître l'an dernier, aux éditions du Rocher, un ouvrage intitulé « Napoléon, les derniers témoins racontent ». C'était d'ailleurs l'occasion de demander à Jean-François Coulon-Desart de rappeler dans quelles conditions Napoléon avait trouvé la mort le 5 mai 1821 et notamment balayer les rumeurs selon lesquelles l'empereur aurait été empoisonné. Jean-François Coulon-Desart.
Il n'a pas du tout été empoisonné, il est mort d'un cancer de l'estomac comme son père et surtout il est mort d'ennui. Pour un type qui a passé toute sa vie à cheval, à guerroyer d'un palais à l'autre, il est mort d'ennui. Alors la thèse de l'empoisonnement, elle a été, c'est dans les années 60 si je me souviens bien, c'est un dentiste suédois ou norvégien qui a imaginé ça parce qu'il a trouvé de l'arsenic dans les cheveux de Napoléon. Sauf que de l'arsenic, il y en avait à l'époque beaucoup dans les cheveux, même nous on en a toujours. Donc la thèse est venue de là, et elle a été popularisée par un type qui s'appelait Ben Weider, qui était un milliardaire canadien, et qui a essayé vraiment de caper des historiens pour argumenter, pour machin, etc. On sait très bien que tout ça est faux, tout ça ce sont des balivernes totales.
Et comment Napoléon occupe-t-il les journées de plus de 5 ans donc, cette île, hein, donc de 1815 à sa mort,
alors,
le 5 mai 1821.
Au début, justement, il dicte, il raconte sa vie. Donc, que ce soit Lascaz, Gourgaud, Montholon, Bertrand, tout le monde, même Ali, Marchand, tout le monde est mis à la dictée. Il dicte, et Napoléon a passé sa vie à dicter. Vous savez très bien qu'il dictait 3 lettres différentes à 3 secrétaires en même temps. Et ensuite, ces gens-là, pendant la nuit, remettent ça au propre. Et Napoléon recorrige le lendemain. Et ça a occupé beaucoup de temps. Et puis, il y a là, sa santé se dégradant en 19. Il y a un petit mieux fin de l'année 19 et en début de l'année 2020. Et puis ça se dégrade. Après, en début 2021, et là, il ne s'en remettra pas, quoi. Donc, il dictait beaucoup. Mais il y a eu, dans ces périodes-là, une fois que sa santé s'est dégradée, parce que c'était un type, il aimait l'exercice, Napoléon. Et là, il ne fait plus l'exercice parce qu'on l'oblige, sinon, à ce qu'il soit suivi par des officiers anglais. Et pour lui, c'est impossible. Donc, il ne monte plus à cheval. Donc, il sort de moins en moins. Donc, il prend de l'embonpoint. Donc, à Sainte-Hélène, ses nuits ont été plus longues que ses jours.
Vous me disiez que finalement, aujourd'hui encore, nous vivions Oui. Sous l'ère napoléonienne.
Mais les Français
et nous n'en avons pas assez conscience.
Mais c'est exactement ça. Il n'y a qu'à voir l'œuvre législative qui a été faite en 15 ans de pouvoir, parce que finalement, il n'a régné que 15 ans. Alors, d'abord, il faut se souvenir que la Constitution, l'article 1 de la Constitution de l'Empire, c'est la France est une république dont le gouvernement est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Donc déjà, il ne faut pas oublier ça. Et en 15 ans, alors, son œuvre magistrale, c'est le Code civil, qui est toujours d'actualité, qui a été toilettée, bien sûr. Mais,
et qui a inspiré même les codes civils d'autres pays du monde.
Vous avez tout à fait raison. Il a été toilettée de 25%. Alors après, la liste est longue. La création des lycées, la Légion d'honneur, la numérotation des rues, le franc qui a tenu quand même, le franc germinal, qui a tenu jusqu'au franc Poincaré, c'est-à-dire qui a tenu plus d'un siècle. La création de la Banque de France, les universités, le commerce, le code du commerce et les tribunaux de commerce, même la retraite des fonctionnaires, c'est lui qui la met au point, qui l'invente. Je veux dire, on pourrait multiplier les exemples. Et les Français ont peut-être oublié, mais on vit toujours sous cette égide-là, sous ces codes-là. Et je crois qu'on s'en porte pas plus mal, ça tient depuis 200 ans. Donc c'est dire combien Napoléon était visionnaire dans ce qu'il a mis au point.
À l'instant, c'était Jean-François Coulon-Desart qui évoquait à notre micro la fin de Napoléon et notamment l'héritage napoléonien dans notre France de ce 21e siècle. Il est l'auteur de « Napoléon, les derniers témoins racontent » paru l'an dernier aux éditions du Rocher, un enregistrement qui avait été réalisé lors de la 14e édition de Livres en vigne au château du Clos de Vougeot le 26 septembre 2021. Nous allons marquer un premier intermède musical et juste après vous réentendrez un extrait d'entretien avec Azouz Begag. Azouz Begag, sociologue, écrivain, homme politique aussi puisqu'il a été ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances de 2005 à 2007 dans le gouvernement Dominique de Villepin. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion, c'est Wagon Livre et nous nous retrouvons dans une poignée de minutes.
Couvrir.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous ne tournons pas complètement le dos à l'année 2021 en ce début d'année avec ce premier numéro de Wagon Livre sur votre radio locale, puisque nous avons choisi de vous proposer une sélection d'extraits d'émissions diffusées courant 2021. Et j'ai retenu notamment un entretien avec Azouz Begag, écrivain, homme politique. Azouz Begag, qui a été ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances de 2005 à 2007 dans le gouvernement de Dominique de Villepin sous la présidence de Jacques Chirac. Et l'année dernière, Azouz Begag a fait paraître aux éditions Julliard un nouveau roman intitulé « L'arbre ou la maison ». C'est d'ailleurs un roman qui a été primé lors du salon Livres en Vigne, puisque ce roman a reçu le prix Albert Bichot 2021. Et dans l'extrait que vous allez entendre, Azouz Begag revient notamment sur ses origines, à savoir le petit garçon né dans un bidonville de la banlieue lyonnaise à la fin, au milieu des années 50. Il évoque aussi le pouvoir des lectures que son père, qui n'était pas francophone, lui faisait quand il était petit garçon. Et enfin, Azouz Begag ne cache pas l'antipathie profonde qu'il a à l'égard de Nicolas Sarkozy. Alors, tout de suite, je vous propose d'entendre Azouz Begag. Azouz Begag, qui finalement, on peut le dire, ce n'est pas vraiment, au début de sa vie, l'itinéraire d'un enfant gâté. Azouz Begag.
L'itinéraire d'un enfant né dans un bidonville.
En banlieue lyonnaise.
Oui, qui n'a à peu près aucune chance de réussir et sa vie et de trouver la porte de l'ascenseur social.
Êtes-vous l'archétype, l'exemple de l'ascenseur social de la République française ?
Je devrais être l'emblème de la France dans le monde, de cette France qui a fait son prestige mondial, surtout après la révolution de 1789, quand le pays est vraiment devenu un pays de liberté et d'égalité pour tous les citoyens français. Nous avons attiré des gens du monde entier qui sont venus chez nous à partir de cette date de la Révolution, trouver ces valeurs de fraternité dans ce nouveau pays. Et donc, ces enfants-là, nés dans les bidonvilles, dans les périphéries urbaines de la France dans les années 60, et qui devinrent ministres du gouvernement français, il n'y en a pas pléthore. Ce gouvernement et cette République devraient s'en servir, nous utiliser, nous manipuler, nous instrumentaliser pour faire de nous les exemples frappants qui illustrent la possibilité qu'il y a en France pour et tous les enfants de s'en sortir.
Et le moule n'est-il pas cassé en cette année 2021 ou alors fragilisé ?
Mais bien sûr, depuis très longtemps en fait, parce que la France et les Français se sont bercés dans les mythes de la méritocratie. L'égalité des chances pour tous, c'est un mythe, c'est un objectif. Mais après, ça doit être une action politique. Et cette action politique, avant que je la conduise au gouvernement au titre de l'égalité des chances, elle n'existait pas. Et j'ai commencé en 2005. Nos parents sont arrivés en France en 1948. Et c'est seulement en 2005 que l'égalité des chances entre tous les enfants de France a été menée par un ministre issu de cette immigration maghrébine et de ces bidonvilles. Franchement, si j'avais été roi de France, j'aurais utilisé cette image à côté de celle de Charlemagne pour dire au combien la France peut être fière de pouvoir sortir, extraire de leur bidonville des enfants comme moi.
Alors Azouz, est-ce que vous êtes vraiment le parrain de l'association
oui.
Bibliothèque sans frontières ?
Oui, ça ne vous étonne pas, venant d'un enfant de l'école républicaine que les livres ont sauvé. Il se trouve que oui, je suis toujours, j'ai été depuis 35 ans un troubadour du livre. Je suis persuadé qu'un enfant qui a 3-4 ans voit ses parents chaque nuit lui raconter des histoires dans l'oralité, a plus de chances de s'en sortir qu'un enfant qui, à 4-5 ans, est dans son lit avec un smartphone ou un iPhone et fait défiler des images devant lui avec ses doigts. La lecture, c'est l'envol, l'envol.
Mais les histoires qu'on vous racontait, c'était la maman qui...
Non,
qui...
c'est toujours, à peu près toujours le père.
C'était jamais
souvent,
Mima.
Non, c'est le père.
Mais il les racontait en arabe ou en français?
En arabe, puisqu'il était non francophone.
Il ne parlait
et analphabète.
Que quelques mots
rien,
de français.
Rien, ah, rien du tout.
Oui.
Il connaissait le langage rudimentaire de la maçonnerie.
Oui. Mais pas vous la, avez un point
pas
commun.
Pas la franc-maçonnerie. Hein.
Oui.
La maçonnerie, c'est-à-dire la taloche, la truelle, le ciment, le mortier.
Gâché. Mmh.
Voilà, gâché. Mmh.
Vous n'auriez jamais pu être ministre de Nicolas Sarkozy.
Jamais de la vie.
Mais vous avez été dans le même gouvernement.
Oui, il était le ministre de l'Intérieur et moi j'étais le ministre de l'Extérieur en gros, puisque à travers le monde on disait que quand même il y a un ministre issu de l'immigration algérienne dans un gouvernement français. Quoi. C'était quelque chose d'original et très valorisant pour la France. Et lui, il était le ministre de l'Intérieur. Entre lui et moi, il y avait une différence essentielle. C'est que lui avait une ambition en politique. C'était de devenir président de la République française. Diable, il le devint. Il le devint. Comment ? Eh bien, en allant chasser, sans vergogne, ni retenue, sur les terrains du Front National. Sans retenue, parce qu'il disait, c'est pas normal que ce Front National, là, qui engrange les votes de gens, de Français qui sont perdus, qui ne savent pas quoi voter et qui sont embêtés dans leur vie quotidienne par les soi-disant racailles des banlieues, les petits arabes qui sèment la pagaille dans les quartiers. Moi, je vais dire aux Français qui subissent ces incivilités, cette insécurité permanente dans leur ville, dans leur vie, que je vais régler cette question. Voilà. Moi, Nicolas Sarkozy, la racaille, je vais la carcériser. Voilà, c'était en 2005. Non, en 2006-2007, pendant la campagne, elle battait son plein. Sarkozy contre le Front National. Yannick, nous sommes en 2021, j'en suis à peu près sûr, ce même président anti-racaille, anti-banlieue, va aller en prison, en France, à Fresnes, ou alors la prison de la santé, parce que lui, et Brice Hortefeux et Claude Guéant étaient des mafieux. Et sont inculpés aujourd'hui par la justice de France d'associations de malfaiteurs. Vous vous rendez compte ? Et le petit Azouz Begag, le petit ministre de l'égalité des chances, qui avait maille à partir avec ses bandits, est devant vous aujourd'hui, librement, en train de siroter un petit verre de Vaune romanée ce samedi matin, en votre belle compagnie, en parlant de littérature. Quelle ironie !
C'était Azouz Begag, enregistré le 26 septembre 2021 lors de la 14e édition de Livre en Vigne. Je rappelle le titre de son roman, L'arbre ou la maison, toujours disponible en librairie aux éditions Julliard. Vous êtes bien à l'écoute de Radion et c'est l'émission littéraire de votre radio locale, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, juste après. La pause musicale que nous vous proposons, vous pourrez réentendre le romancier Christophe Donner qui nous a d'ailleurs l'année dernière régalé avec un épais roman intitulé « La France Goy » paru chez Grasset, un roman qui soulevait en fait les voiles qui dissimulent le spectre de l'antisémitisme. On y revient en tout cas après la virgule musicale que nous vous proposons. Belle journée, excellent 1er janvier 2022 et une fois de plus, belle et heureuse année à vous toutes et tous.
Au volant de ton cœur, je veux m'enfuir. sur les rails de ton corps, tes désirs. Paysages qui défilent et m'attirent. On dévale l'avenue sans rien dire.
Et les spots font la rétine colorée. Tu ondules et je sais que les gens aiment te regarder. Tu souris à pleines dents, moi je croque dans ton cou mouillé. On tangue comme le mât d'un bateau dans la houle. Nos langues se bousculent comme les gens dans la foule. Avance, je joue à l'ombre qui recule. On danse, j'aime tes mains courant sous mon pull.
Et
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Suite de la rétrospective 2021 de votre émission littéraire sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous propose de réentendre un extrait d'un entretien que j'avais enregistré avec Christophe Donner, romancier, le 25 septembre dernier, lors de la 14e édition de Livre en Vigne. Christophe Donner est né à Paris en 1956. Et c'est un écrivain auquel on doit une cinquantaine de romans, des ouvrages d'ailleurs plus ou moins autobiographiques, parmi lesquels Petit Joseph en 1981, L'Esprit de Vengeance en 1991, L'Empire de la Morale en 2001 et Vivre encore un peu en 2011. L'année dernière, en 2021, il a fait paraître La France Goye aux éditions Grasset. Et dans l'extrait que vous allez entendre, Christophe Donner revient en fait sur une définition de l'antisémitisme. Parce que le roman La France Goye est effectivement le pendant de la France juive qu'avait fait paraître en 1886 Édouard Drumont. Et Christophe Donner rappelle en fait ce qu'est réellement l'antisémitisme et notamment la notion d'antisémitisme définie au XIXe siècle, totalement inventée mais également totalement erronée. Christophe Donner.
Mais surtout ce qui se passe au moment où Drumont prend l'affaire en main, si on peut dire, et je parle bien d'affaire parce que c'est aussi une affaire commerciale. C'est le moment où se développe dans la science ethnologique et anthropologique la notion de race humaine. C'est-à-dire qu'on classe, à grande époque où il faut classer les choses, il faut classer les plantes, il faut classer les animaux, il faut classer les hommes en différentes races. Donc qui dit différentes races dit évidemment différents stades d'évolution de la race, les races inférieures et les races supérieures. Et c'est magique, les juifs appartiennent à une race. Alors comme c'est faux, c'est-à-dire que les juifs ne sont pas une race, eh ben il faut créer une race de tous les juifs. Et c'est là qu'intervient ce truc très bizarre de définir les juifs comme des sémites. Alors que, bon, ils ne parlent pas tous hébreu, c'est une langue sémite l'hébreu, mais la langue sémite la plus répandue, c'est l'arabe. Donc tous les arabes, pratiquement, enfin tous ceux qui parlent arabe sont sémites, parce que ce n'est pas une race, c'est un langage, c'est la langue sémitique. Et donc il y a cette espèce d'absurdité de définir les juifs comme des sémites. Et ce qui est tragique, c'est que les juifs eux-mêmes adoptent ce terme de sémites. C'est-à-dire que comme à partir du moment où ils sont victimes des antisémites et qu'ils ont des ligues contre l'antisémitisme, c'est comme s'ils acceptaient de se définir comme sémites, ce qui est un non-sens total. Et aujourd'hui, on voit bien, on est au bout de cette boucle absurde, puisqu'on a un homme comme comme Zemmour, qui est fondamentalement antisémite, puisque son programme, c'est d'éliminer les vrais sémites, c'est-à-dire les Arabes, grosso modo, alors l'islam si on veut, mais surtout les Arabes, c'est-à-dire il veut chasser les Arabes, et la prochaine étape, je pense qu'il s'agit de les exterminer, en tous les cas de les chasser du... Parce que Drummond, au début, il voulait juste aussi chasser les Juifs, et puis on a vu ce que ça a donné. Et donc, le vrai antisémite, c'est Zemmour aujourd'hui. Il est contre les sémites, contre les Arabes. Et c'est bien un retour de bâton de l'invention de ce mot qui a été créé, inventé, mis à la mode par Drummond avec son livre La France juive.
1886.
Et après un autre livre qui définit non plus seulement les Juifs comme des sémites, mais les non-juifs comme des antisémites, comme s'il y avait la race supérieure, c'était les antisémites. Alors le mot n'a pas défini une race, mais en fait, c'est devenu les Aryens, etc. Et donc, c'est un moment très, très important de l'histoire. Et donc, à un certain moment, mon histoire familiale, elle laisse le pas à l'histoire, la grande histoire, à cette histoire de l'antisémitisme. Et donc, le roman, il se construit comme ça, de manière... Je ne sais pas comment on peut dire, mais comme un kaléidoscope, comme un... Bon, moi, j'ai été monteur de films pendant très longtemps, donc j'aime beaucoup faire passer d'un plan à l'autre, faire rendre en écho des choses qui... des chants, des contre-chants, des changements de temps, des changements d'époque, et tout ça fait chorus. Et donc, le livre est construit comme ça, et avec une histoire familiale, personnelle, dans laquelle je me reconnais, parce qu'il y a plein de traits de caractère de mon arrière-grand-père qui me ressemblent, et puis toute l'histoire qui va suivre ensuite, et puis la grande histoire, si on peut dire, mais elles se répondent, elles ne sont pas incohérentes, et elles font avancer le roman par des fils mystérieux parfois, et par, j'espère, une construction judicieuse.
Enregistré fin septembre 2021, c'était le romancier Christophe Donner. Christophe Donner, dont je rappelle le titre du dernier roman, paru l'an dernier chez Grasset, La France Goy, un roman à travers la saga de sa propre famille qui permet à Christophe Donner de remonter aux origines de cette haine consacrée par la publication en 1886 de La France juive d'Édouard Drummond. C'est un roman de l'histoire de France en racontant les trois décennies d'invectives, de calomnies, de duels, de procès, de suicides, de scandales et d'assassinats qui ont abouti en 1914 à l'embrasement de l'Europe. Le roman s'arrête d'ailleurs à la veille de la guerre de 14. On attend donc la suite que Christophe Donner a promise à son éditeur et dont il parlait à notre micro. Je tiens aussi à préciser que, bien évidemment, aujourd'hui, c'est un florilège des grands moments de l'émission Wagon Livre 2021, mais bien évidemment, vous retrouvez ces entretiens en intégralité sur le site d'archives d'émission via internet www.yannickpetit.fr. On change de style, on change également de sujet, puisque je vous propose de réentendre un extrait d'une émission que j'avais enregistrée courant mai 2021, avec un officier d'actif de la gendarmerie. Il s'agit du capitaine Hervé Moreau, qui a fait paraître en auto-édition « Vérité d'un capitaine de gendarmerie, un officier d'actif rompt le devoir de réserve ». Il s'agit d'un livre témoignage qui raconte le quotidien des différentes interventions de la gendarmerie, mais c'est aussi et surtout un livre corrosif, mordant, au style incisif sur l'état de notre pays. Et d'ailleurs, suite à la publication de ce livre, le capitaine Hervé Moreau s'est vu infliger un blâme par la ministre des Armées, Florence Parly. Le capitaine Hervé Moreau s'en explique.
C'est le plus haut degré de sanction qui puisse être infligé à un officier de l'armée française. Et peu importe vos états de service, peu importe tout ce que vous avez pu faire pendant 30 années, la rupture du devoir de réserve induisait le fait que cette sanction du plus haut niveau me soit infligée. Donc bien entendu, une forme de déshonneur. une forme de mise au ban de la carrière des armes. Mais j'ai répondu à la ministre, Mme Parly, dans une lettre que je lui ai adressée et qui était communiquée sur les réseaux et dans laquelle essentiellement je lui disais que Mme Parly, non, je ne suis pas déshonoré, moi mon honneur, je le trouve dans les yeux, dans le cœur, dans le regard des victimes que je protège. Voilà où se trouve mon honneur, madame. Et cela, on ne me l'enlèvera pas et on ne me fera pas taire. Parce que ce que j'ai à dire est trop important, trop essentiel, parce que nos concitoyens souffrent depuis trop longtemps et de manière trop importante pour que l'on continue de se taire, pour que l'on continue d'être servile, pour que l'on ne cesse pas de vouloir la vérité. Moi, je considère que le devoir de vérité est plus important que le devoir de réserve. Et maintenant, les choses sont à ce point dramatiques dans bien des territoires de notre pays que l'on doit agir.
Il y a quelques jours, mardi 11 mai dernier, vous deviez passer... Et vous étiez l'invité du journal télévisé de France 2 à 20h.
Oui.
J'ai essayé de vous écouter, de vous voir sur ce plateau de France 2 avant que de vous accueillir ici dans les studios de Radio Nanitry. Et à la place, invité exceptionnel, nous avons eu le Premier ministre Jean Castex. Comment se fait-il ? Que s'est-il passé ? Peut-on vous poser cette question légitimement ?
Entre le moment où l'enregistrement est fait au niveau des au pied des locaux de cette chaîne publique et le moment où le sujet est censé être diffusé, annoncé par Anne-Sophie Lapix, effectivement, la programmation change. Alors à quoi cette programmation est-elle due ? À quoi cette évolution, ce changement est-elle due ? Y a-t-il eu censure ? Y a-t-il eu pression au plus haut niveau pour que ce sujet soit écarté ? Je l'ignore. Bien entendu, on ne peut que supposer... voilà, peut-être que la présence de M. Castex, notre Premier ministre, justifie que la prééminence lui soit donnée, bien entendu, et je le comprends tout à fait, mais peut-être que cela répond-il à d'autres motivations, mais je ne sais pas. Et en général, quand je ne sais pas, je ne m'exprime pas. Dans l'ouvrage, il y a tout. Il y a mes failles, il y a mes fautes, il y a mes souffrances, il y a mes erreurs, il y a aussi mes faits de gloire, il y a tout. Moi, je crois qu'on est comptable de ce devoir de vérité au lecteur. Il ne s'agit pas de s'enorgueillir de quelque chose qui n'existe pas, il s'agit de s'enorgueillir de la vérité et de la réalité, en toute lucidité. Et moi, j'ai une très très grande qualité, je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai au moins celle-là, je sais reconnaître mes torts.
À l'instant, le capitaine Hervé Moreau, qui signait en 2021 un livre témoignage intitulé « Vérité d'un capitaine de gendarmerie » avec pour sous-titre « Un officier d'active rompt le devoir de réserve », un livre témoignage, un livre corrosif, mordant, qui d'ailleurs était sans concession dans la dénonciation de l'état de notre pays. On retrouvera le capitaine Hervé Moreau juste après la pause musicale que nous allons vous proposer. Et dans la deuxième partie, il expliquera d'ailleurs pourquoi, selon lui, la justice ne condamne pas. Excellente fin de matinée sur Radio Nantes, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Resserré dans tes épaules, tu n'aimes rien montrer. Là-bas au fond, tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit entre tes yeux. Ces mêmes traits d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. T'as jamais pu, jamais su danser, jamais tu laisses aller.
serré dans tes épaules. Tu n'aimes rien montrer. Là-bas au fond tu t'isoles. Jamais su danser, t'as jamais su glisser.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je vous propose de réentendre le capitaine Hervé Moreau. Nous l'avons entendu précédemment déjà dénoncer un certain nombre de problèmes criants dans notre pays. Je rappelle qu'il a fait paraître en 2021 un livre témoignage en auto-édition d'ailleurs, qui s'est extrêmement bien vendu et qui continue encore de se vendre et qui a pour titre « Vérité d'un capitaine de gendarmerie, un officier d'active rompt le devoir de réserve ». Un livre qui effectivement raconte le quotidien des différentes interventions et missions de la gendarmerie nationale, mais c'est aussi un livre engagé, corrosif, au style incisif sur l'état de notre pays. Je vous rappelle aussi que le capitaine Hervé Moreau, suite à la publication de son livre, s'est vu infliger un blâme par la ministre des Armées, Florence Parly. Cette fois-ci, je vous propose d'entendre le capitaine Hervé Moreau nous expliquer pour quelles raisons la justice en France ne condamne pas. Capitaine Hervé Moreau.
La justice ne condamne pas de fait de l'idéologie des magistrats qui sont toujours dans la recherche de circonstances atténuantes pour ceux qui nous font du mal. Et elle ne fonctionne pas parce que ces places de prison n'ont jamais été construites et c'est un drame absolu que nous vivons depuis des décennies. Moi, je considère qu'effectivement, il nous manque une trentaine de fleurimérogistes, une centaine de milliers de places de prison. Si nous voulions vraiment évoluer dans un pays où la société serait protégée, la société que nous voulons de ceux qui nous font tant de mal et avec une telle récurrence, c'est pas compliqué, il faut qu'ils soient incarcérés pour cesser d'être nuisibles, parce que ce sont des gens qui ne cessent jamais, parce que les atteintes aux biens sont très rémunératrices, parce que les atteintes aux personnes sont trop nombreuses, trop violentes, trop récurrentes, parce que ceux qui font ce mal le font avec une fréquence trop élevée, on doit les empêcher de nuire. Et pour les empêcher de nuire, c'est pas compliqué, il faut deux leviers. Le premier, c'est l'éducation, c'est une chose absolument essentielle. Il faudra toujours éduquer encore et encore, instruire, socialiser, former. Et il faut, par ailleurs, et je me dois de le dire, réprimer. Et réprimer lorsque les faits sont graves, d'une dimension délictuelle ou bien sûr criminelle. Il y a trop de faits délictuels et criminels dans notre pays pour que nous laissions continuer d'exercer leur action si nuisible. Ceux qui en sont à l'origine, il faut incarcérer. Et les magistrats ne le font pas. C'est une véritable catastrophe à mon sens.
Les magistrats ne le font pas parce qu'ils savent aussi qu'on ne peut pas mettre 6 prisonniers dans une cellule.
Oui, certainement, mais ça, ce n'est pas leur problème, Yannick. Les magistrats doivent condamner lorsque les faits le justifient. C'est tout. Qu'il y ait des places de prison ou qu'il n'y en ait pas, que l'administration pénitentiaire soit suffisamment dimensionnée ou pas, dans l'absolu, ça n'est pas leur problème et ça n'a pas à l'être. Nous, ce que nous voulons, c'est une société qui soit protégée,
et elle ne l'est pas. Quand vous dites
nous, les citoyens, le peuple de France.
Alors, vous pouvez penser que tout le monde ne partage pas vos points de vue.
Ah ben certes, mais lorsqu'ils seront devenus victimes, on en reparlera à ce moment-là. Vous pouvez très bien avoir une vision angéliste des choses, avoir une vision très déconnectée des réalités du terrain, mais lorsque vous vous serez fait agresser, lorsque vous serez fait détrousser, harceler, là on en reparle, Yannick, moi j'en ai vu, hein, effectivement. Je suis au plus près du genre humain. Nous, gendarmes et policiers, nous sommes au plus près du genre humain. Donc l'angélisme cesse lorsque vous prenez des coups, lorsqu'on exerce un racket, un chantage, une agression à votre encontre. Lorsque vous devenez une victime, tout change. Et lorsque vous prenez la mesure du laxisme de la justice, son incurie, ses juges incapables, qui ne répondent pas aux besoins de la société, qui ne la protègent pas, eh bien vous en êtes outré. Quand vous êtes en charge du cheminement judiciaire, qu'il s'agisse d'un procès d'assises ou en correctionnel, voilà, vous ne pouvez qu'être effaré lorsque vous êtes victime du sentiment d'abandon que vous ressentez. On s'occupe davantage des coupables que des victimes dans ce pays. Et ça, c'est insupportable et c'est intolérable et ça doit changer. Moi, ce que je veux, c'est une société qui soit sûre. On laisse prospérer des hommes de non-droit, on laisse prospérer la violence, loi du plus fort, et moi je m'insurge contre cela. Et je veux une France différente pour nos enfants, une France pacifiée, équilibrée, où il n'y ait pas ce communautarisme galopant, où il n'y aurait pas toutes ces formes de prosélytisme, cette violence, cette loi du plus fort. Moi, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me motive et c'est ce que je veux pour les générations qui vont nous suivre.
Mon capitaine, pensez-vous qu'en 2022, année d'élection présidentielle,
oui,
ce sera la justice, l'insécurité seront des thèmes centraux pour les candidats ou est-ce qu'il faudra aborder d'autres choses?
Moi, je crois
qu'on peut pas tout remettre à plat comme ça du jour au
lendemain. Au regard du coût de la gestion du Covid-19, je pense que ce sera un naufrage économique et financier extrêmement dramatique. Je pense que des millions d'entrepreneurs vont être confrontés avec la cessation des aides de l'État à des situations extrêmement préoccupantes. Ça a déjà commencé. Donc moi, c'est à eux que je pense également et surtout. Et je pense qu'effectivement, ça, ce sera le grand thème parce qu'il s'agit de vivre, de survivre. Il s'agit d'essayer de développer. Moi, ce qui m'a toujours heurté dans ce pays, c'est que, je l'avais dit dans l'émission précédente, l'administration se doit d'aider, de seconder, d'épauler au maximum les entrepreneurs de ce pays, ceux qui prennent des risques, pour ceux qui emploient, ceux qui développent. Ils ont beaucoup de boulets au pied.
Oui, donc, ce que vous écrivez, c'est que l'État est devenu un empêcheur.
L'État est devenu un empêcheur, c'est absolument catastrophique. Moi, je veux bien la politique sociale la plus noble et la plus généreuse, mais qui la paye? Qui la paye? Et c'est quand même les patrons de ce pays, les entrepreneurs, qui la financent et qui la supportent. Elle est beaucoup moins développée dans d'autres pays d'Europe et bien entendu dans le reste du monde. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je m'insurge aussi contre un social qui est devenu excessif dans notre pays, contre cette politique de l'assistanat dont on crève.
Nous avions consacré deux numéros de Wagon Livre au capitaine Hervé Moreau et surtout à son livre témoignage intitulé « Vérité d'un capitaine de gendarmerie » avec ce sous-titre évocateur « Un officier d'active rompt le devoir de réserve ». Le capitaine Hervé Moreau est désormais en retraite, mais le livre continue à se vendre toujours très bien. Vous pouvez d'ailleurs vous le procurer en librairie, mais également par internet via le site lalibrairieducapitaine.com. Merci d'être avec nous en ce tout premier jour de cette nouvelle année 2022 que l'on souhaite pleine de surprises, mais plutôt des bonnes, en dépit d'une actualité souvent morose et un petit peu démoralisante. Juste après la pause musicale que nous allons vous proposer, vous pourrez réentendre le chanteur belge et poète Julos Bocarn, qui nous a quittés l'an dernier à l'âge de 85 ans. Il nous a quittés le samedi 18 septembre 2021 et vous aurez l'occasion de le réentendre. Nous nous retrouvons dans une poignée de minutes.
Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces t'abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de des larmes et de la peine, de la vie de tous les jours et de la paix sereine. Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde, ne te laisse pas. Étranges idéaux, les hystéries funèbres. Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place. Quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face? Pousser à la révolte ou faire le premier pas, semer pour qu'on récolte, crier. Est-ce que tout va bien?
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de passer cette fin de matinée en notre compagnie, surtout en ce premier jour de la nouvelle année 2022. Nous allons terminer cette rétrospective 2021 de Wagon Livre avec la voix d'un chansonnier écologiste et humaniste qui nous a quittés le 18 septembre 2021 en Wallonie, dans cette Wallonie qu'il a tant aimée et qu'il a tant chantée aussi. C'était un amoureux des mots, il avait publié 49 albums illustrant son engagement humaniste, écologique, amoureux de la paix. Il s'agit de Julos Bocarn. Sa popularité était devenue vite grandissante et dans les années 70, il chante notamment à l'Olympia. Je vais d'ailleurs vous faire entendre un extrait dans lequel Julos Bocarn revient sur l'importance de la défense de la langue française, de la francophonie. Et puis Julos Bocarn évoque aussi l'événement tragique qui a marqué sa vie, à savoir ce 2 février 1975, lorsque sa femme, Louis-Hélène Brinfaut, surnommée Loulou, est assassiné de 9 coups de couteau par un jeune homme déséquilibré que la famille hébergeait. Je vous propose tout de suite d'entendre Julos Bocarn, que j'avais rencontré en juillet 2010 dans la Nièvre, très précisément dans le petit village de Brassy, alors que Julos Bocarn était l'invité de la fête de la chanson française de l'Orme. Julos Bocarn.
Eh bien, on doit protéger notre langue aussi, parce qu'il y a de plus en plus de chansons en anglais. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, il y a de très belles chansons en anglais. Mais ce qui est terrible, c'est que ça avance et qu'il y a des amis qui m'écrivent maintenant en anglais sur Internet. C'est comme si c'était la mode, quoi. C'est une sorte de snobisme.
Et vous parlez l'anglais, vous?
Pas du tout. Moi, je parle un anglais tout à fait. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Voilà, je parle un anglais tout à fait, que tout le monde comprend.
Je vous demandais si vous étiez optimiste, parce que Julos Bocarn, vous avez beaucoup, et vous chantez toujours, l'amour, la paix, et... Vous avez vécu dans votre vie quelque chose de terrible que vous avez mis en chanson. C'est ce terrible drame de la Chandeleur 75. Mm-hmm. Je me permets d'en reparler. Bah, de toute façon, vous ne l'avez jamais caché, mais vous l'avez chanté. Je rappelle donc aux auditrices et auditeurs qu'en 1975, votre compagne est assassinée par un déséquilibré. Elle est poignardée. Mm-hmm. Et vous écrivez un texte absolument magnifique dans la nuit du 2 au 3 février 1975. D'ailleurs, ce texte, on le trouve récité par Claude Nougaro sur votre CD Chandeleur 75. Et vous avez connu la perte, la douleur de l'être aimé qui part vers l'envers du décor et qui vous laisse seul sur le pont avec vos deux enfants que vous appelez vos deux petits moussaillons.
Mmh, tout grand.
Des grands maintenant, oui, effectivement. Et alors, Julos Bocarn, est-ce qu'on se remet d'une telle déchirure, d'une telle horreur?
On ne s'en remet jamais. Mais on peut vivre avec, bien sûr. Parce que l'épreuve donne toujours une force particulière.
Vous aviez 39 ans au moment de cette tragédie.
Oui. Maintenant, j'en ai 74. Mais ça me reste comme si c'était hier, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut se relever de ça? Ben, on continue à chanter, je continue à chanter, je continue à écrire, parce que l'écriture, pour moi, est une libération. C'est grâce à l'écriture que je suis passé au travers.
C'est thérapeutique.
C'est thérapeutique. Ça a été une thérapie. Je crois que c'est thérapeutique, oui, que la langue est vraiment thérapeutique. Écrire des textes, écrire ce qu'on est, se positionner chaque jour, le jour même, sur ce qu'on est, où on en est, et c'est très important. On rajeunit continuellement à ce moment-là.
Vous êtes optimiste, néanmoins, dans une de vos chansons, vous dites, et c'est dans ce texte célèbre, « Le monde est une triste boutique ».
Ben c'est vrai,
pas réconfortant.
C'est vrai, ça n'a pas changé, c'est pas réconfortant, mais... Vous savez, il y a aussi un côté médiatique qui met toujours en valeur ce qui est moche, ce qui est stupide, qui met toujours en valeur les assassins, qui ne met jamais en valeur les gens positifs qui sont dans le monde. Il y en a beaucoup, mais ça, on n'en parle pas. On donne toujours des mauvaises nouvelles, on ne donne jamais des bonnes. Et moi, je voudrais justement inverser la vapeur.
Vous expliquez que c'est la société qui rend l'être mauvais, qui le pervertit. Enfin, pour vous, la société est coupable des drames.
La société, elle fonctionne au nom du pèse et du fisc et du Saint-Bénéfice. Hein. C'est sûr que c'est la nouvelle religion.
Alors, la religion cathodique aussi, dominée par l'image.
Oui, c'est l'école cathodique maintenant. C'est plus, il y a plus d'école, mais c'est l'école cathodique.
Alors, il faut s'aimer à tort et à travers. Voilà, le message d'amour est un message presque religieux.
Oui, c'est presque religieux, mais
c'est presque christique.
Je ne fais pas partie des religions.
Vous n'êtes pas dans la croyance.
Non, je suis dans la croyance de la vie. Je crois que la vie avec un grand V, c'est énorme, c'est extraordinaire. Et qu'on n'a pas fini, hein, que la vie n'est pas finie. Et qu'elle continue, qu'elle devient de plus en plus forte. Seulement, c'est un courant dont les journalistes ne s'intéressent pas à ce qui vit. Je crois que les journalistes s'en intéressent pas trop.
Je vous cite Julos Bocarde. Le vrai poète, c'est quelqu'un qui est inscrit dans la vie quotidienne. C'est pour ça que c'est intéressant de soutenir les poètes vivants. Ils savent qu'ils vont mourir plus que les autres. Je trouve inquiétant le culte des poètes morts. Les poètes vivants, on attend parfois qu'ils soient morts. On fait des entrevues pour avoir quelque chose le jour de leur mort. On est dans une société de pompes funèbres.
Oui, c'est ça, une société nécrologique.
Alors là, j'ai demandé une entrevue, Julos Bocarde, pour mon émission Wagon Livre. C'est pour le plaisir de vous rencontrer et de le partager avec les auditeurs. C'est pas du tout pour la diffuser quand vous serez parti de l'autre côté.
Merci, ça m'encourage.
Mais on est dans une société de pompes funèbres.
Oui, société de pompes funèbres.
Donc on n'est pas du côté de la vie, alors.
À mon avis, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont du côté de la vie. Hein. C'est parce qu'on ne les met pas en valeur et puis qu'ils sont ignorés. Mais eux savent qu'ils sont du côté de la vie. Mais c'est vrai qu'on aime beaucoup les gens qui sont morts, mais pas les gens qui sont vivants.
C'était le chanteur belge Julos Bocarde qui nous a quittés le 18 septembre 2021 à l'âge de 85 ans. Un document que nous souhaitions rediffuser, notamment dans cette rétrospective 2021. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été fidèle à ce rendez-vous en ce 1er janvier 2022. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 8 janvier, toujours à 11h sur Radion. Nous serons avec Lola Semonin. Lola Semonin, native de Franche-Comté, a créé en 1982, il y a maintenant 40 ans, le personnage de la Madeleine Proust. Un immense succès public et critique qui lui a valu 3 nominations aux Molières. Et elle se consacre désormais à l'écriture, où l'on retrouve d'ailleurs ses talents conjugués d'auteur et d'interprète. Et nous parlerons de ces 3 romans, puisque Lola Semonin a mis en roman la vie du personnage de théâtre et de scène qu'elle avait créé. Alors le tome 1, c'est La Madeleine Proust, Une vie quand j'étais petite, qui a reçu d'ailleurs le prix André Besson. Le tome 2, Ma drôle de guerre, c'était en 2015, et l'an dernier est paru Sous la botte, 1940-1941, la petite Madeleine Proust qui quitte son village du Haut-Doubs de Derrière-les-Gras et qui devient bonne à Paris, dans une famille très riche, mais Madeleine découvre Paris sous l'occupation. Voilà, c'est Lola Semonin qui sera samedi prochain devant notre micro. Très belle journée du jour de l'an à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous samedi prochain, toujours sur Radion. Au revoir.
Thank you.